toutes et à tous et bienvenue sur Radio Transition, les dernières actualités RSE passées en revue pour vous. Je suis Sylvain Boucheron, donc CEO de B-Révolution, et j'ai le plaisir de vous présenter ma collaboratrice Anaïs Segond qui va animer avec moi cette édition. Alors nous vous présentons tout d'abord évidemment nos meilleurs voeux pour cette année 2021, une année que l'on espère sera sous le signe de l'action pour la transition écologique. Pour ce premier numéro de l'année, nous vous parlerons de diversité, de devoirs de vigilance et de climat ainsi que de biodiversité. Comme vous le savez sûrement, 2021, à l'instar de 2020, se veut être l'année de la biodiversité. Sans plus tarder, commençons avec la diversité. Anaïs, je t'en prie.
Merci Sylvain pour cette introduction. Alors on se le rappelle, l'année 2020 a été marquée par plusieurs événements pour l'égalité et contre la discrimination. Commençons donc ce numéro par la revue de trois pratiques en matière d'égalité femmes-hommes. Fin 2020, c'est celle du comité d'organisation des Jeux Olympiques qui a fait le plus parler avec la confirmation que les Jeux de Paris 2024 afficheraient la parité parmi les athlètes. Une nouvelle qui s'inscrit dans la continuité d'actions déjà engagées, puisqu'au JO de Tokyo, il y aura presque 49% de femmes athlètes. Au niveau industriel, c'est le groupe Michelin qui prend le virage vers la parité de sa direction. Et oui, début décembre, le PDG a annoncé qu'il intégrera deux nouvelles femmes dans le COMEX, une décision qui portera à 40% la part de femmes dans ce conseil exécutif. Et une bonne nouvelle qui n'arrive pas seule, puisque le président du conseil du groupe sera très bientôt une présidente incarnée par Barbara Dalibard. Le groupe rejoint ainsi Schneider Electric, Dassault Systèmes et Danone, qui sont les seules entreprises du CAC 40 à compter plus de 40% de femmes au COMEX. Et justement, Danone, qui, vous vous le rappelez sûrement, a annoncé une réorganisation en octobre, a également annoncé faire en sorte que son conseil d'administration soit paritaire lors de la prochaine Assemblée Générale. Le conseil comptant actuellement 43% de femmes.
Alors au-delà de la diversité des genres dans les directions, le manque de diversité, notamment sur le sujet du handicap au sens large, est souvent évoqué à l'encontre des médias. Afin d'y remédier, un comité de rédaction handicap a été créé début décembre par le CSA. L'objectif du comité sera d'accompagner les médias audiovisuels à identifier les attentes des personnes handicapées, de promouvoir un vocabulaire juste et de partager des bonnes pratiques. Au même titre que les médias, l'intelligence artificielle est aussi concernée. Orange vient d'ailleurs d'être reconnue pour la conception, le développement et l'exploitation d'une intelligence artificielle responsable et inclusive. Et elle se positionne ainsi comme la première entreprise à obtenir un label dédié à ces enjeux pour l'intelligence artificielle.
Et justement, l'intelligence artificielle dont tu parles, Sylvain, est justement utilisée en Chine pour la reconnaissance faciale. Une technique utilisée par le gouvernement à l'encontre de la minorité ouïghour. On ne quitte donc pas ces enjeux de diversité pour parler cette fois de devoir de vigilance, car au-delà de ces pratiques technologiques, les Ouïghours sont également victimes du travail forcé, notamment dans les champs de coton, ces mêmes champs dans lesquels s'approvisionnent des marques internationales. Et voilà, le devoir de vigilance à nouveau au centre de l'attention. Voilà presque 4 ans que la loi sur le devoir de vigilance a été adoptée en France en 2017. Les entreprises sont désormais responsables des actions de leurs fournisseurs, une mesure qui gagnerait donc à être renforcée au-delà de la France pour éliminer ces pratiques, entre autres. Et c'est justement sur une proposition similaire, mais au niveau européen, et qui se veut plus contraignante, que se penche le commissaire à la justice de l'Union européenne. Ce devoir de vigilance européen s'adresserait à tous les secteurs et la responsabilité se baserait sur le risque d'effet néfaste de l'entreprise et non pas sur la taille. Une proposition qui fera sûrement l'objet de divers débats dans les prochains jours, étant donné que les organisations professionnelles ne sont pas tout à fait en accord avec tous les points. Affaire à suivre donc.
Pour revenir sur la biodiversité, thème de l'année 2021 donc, va nous permettre de voir concrétiser un certain nombre de projets et d'événements. Le premier étant la publication de la norme NFX32001 le 9 janvier, qui présente des lignes directrices et des exigences pour la mise en place d'une démarche biodiversité robuste au sein des organisations. Cela fait suite à près d'un an et demi de travail qui a mobilisé l'ensemble des acteurs et qui a permis d'aboutir à un texte normatif et donc qui se veut être un outil pour les entreprises. Ainsi, elles pourront suivre les différentes étapes pour évaluer et prioriser leurs enjeux de biodiversité sur l'ensemble de la chaîne de valeur, définir des objectifs, mettre en œuvre des plans d'action et rendre compte de leur démarche auprès de leurs parties prenantes. Du côté des événements internationaux, le Congrès mondial de l'IUCN se tiendra donc après l'été et la COP pour la biodiversité en fin d'année en Chine.
Un exemple de bonne pratique pour appuyer le propos de Sylvain avec Maison du Monde. L'entreprise du CAC 40 a mis en place plusieurs pratiques pour protéger la biodiversité, notamment à travers la signature de Act for Nature il y a déjà quelques années. Et aujourd'hui, par exemple, 70% du bois acheté par le groupe est certifié. Et plus récemment, le groupe a annoncé la mise en place d'une contribution biodiversité. L'objectif de la démarche étant d'inciter l'ouverture de magasins dans des lieux existants pour éviter l'artificialisation des sols. Et pendant ce temps, l'espace se pose la question de sa durabilité. L'Agence spatiale européenne vient de signer un contrat avec le Suisse Clean Space dans l'objectif de réaliser une mission de dépollution de l'espace. Concrètement, le robot de la start-up devra aller chercher le dernier étage d'une fusée en orbite depuis presque 8 ans pour le détruire. Il s'agit d'une première mission test qui devrait entraîner une série d'autres similaires avant de nettoyer l'espace de plus de 23 000 objets toujours en orbite. En France, le CNES suit de près et contribue à ces initiatives. L'établissement a d'ailleurs récemment présenté sa stratégie RSE, intégrant justement ces enjeux, cet enjeu de durabilité de l'espace parmi ses 5 axes.
Merci pour votre écoute et nous espérons que ces quelques brèves vous auront inspiré et à très bientôt pour le prochain épisode de Radio Transition.